Nicolas Le...
Ah non.
Le lapsus. Forcément, l'identification finit par se faire. Jean-François Parot, donc, nous sommes très heureux de vous retrouver avec cette nouvelle enquête de Nicolas Le Floch, l'inconnu du pont Notre-Dame. Mais le compte à rebours, le décompte se poursuit 1786.
Oui, le décompte se poursuit lentement parce que les lecteurs attendent avec impatience la Révolution. Mais enfin, la Révolution... Elle commence en 89, c'est pas encore vraiment la révolution telle qu'il la redoute ou il l'espère. Donc là, nous sommes encore dans une période précédant la révolution, mais on s'aperçoit qu'à plusieurs niveaux que la situation en France s'alourdit. En dépit d'ailleurs de la popularité du roi, qui va faire un voyage à Cherbourg et qui va être dans toutes les villes de Normandie acclamé par des foules nombreuses et avoir les gestes nécessaires pour, je dirais, fonder cette nouvelle popularité.
Alors le lecteur ici est gâté parce qu'il s'en passe des choses et ô combien importantes, en particulier relatives à la vie de Nicolas Le Floch. Il y a tout d'abord les retrouvailles avec la Satin.
Oui, la Satin qui, nous le savons...
Cette chère Antoinette.
L'agent double français à Londres et qui réapparaît dans une réception à l'ambassade anglaise, à l'ambassade britannique, sous le nom de Lady Charwell. Elle a en effet épousé un vieux lord de l'amirauté, ce qui n'est pas rien, et donc se trouve nez à nez avec Nicolas Le Floch qui en éprouve... Une grande surprise, je dirais un accès de jalousie parce que...
Oui, qui est très déstabilisé, c'est assez rare chez lui.
Nicolas a tout de même un peu un cœur d'artichaut. Ah. Alors il y a Aimé d'Aranée, il y a Lady Charwell, et là son cœur n'hésite pas, mais enfin il éprouve une impression désagréable de voir... la Satin, Antoinette Goblet, la mère de son fils, mariée avec un Anglais. Et toute une partie du roman montre par quels moyens détournés elle va transmettre à Nicolas des informations qui sont importantes pour la sûreté du roi et l'intégrité du royaume.
Parce que ces perfides Anglais ont quelques mauvais projets contre Louis XVI.
Oui, il y a toujours, pour les Anglais, la honte et le regret d'avoir perdu les colonies américaines et le sentiment que la perte des colonies américaines a été essentiellement due à l'appui que le Royaume de France avait donné aux insurgents américains.
Alors là, est-ce que c'est le fruit vraiment de votre imagination ou est-ce que historiquement, il y a eu comme ça des tentatives de déstabilisation du roi et du royaume de France par les Anglais à l'époque ?
Peut-être pas aussi d'une manière aussi évidente que celle que j'ai imaginée, mais c'est vrai que toute cette partie de notre histoire est marquée par l'hostilité anglaise.
Pour corser encore un peu plus l'affaire, eh bien Louis, le fils d'Antoinette et de Nicolas, est également joue un rôle très actif.
Oui, le perfide Sartine utilise Louis de Ranreuil, le fils de Nicolas, pour approcher Lady Charwell, qui est sa mère. Donc c'est une mission, au fond, périlleuse pour tout le monde, à la fois pour la Satin, mais aussi pour son fils. Mais c'est le seul moyen que Sartine a trouvé afin d'essayer d'obtenir les renseignements que Lady Charwell n'arrive pas à faire passer au service secret français.
Et puis, j'allais dire la cerise sur le gâteau, mais on ne peut pas trop en dire, il y a ici une révélation absolument sensationnelle sur les origines de Nicolas
Le Floch.
Oui,
nous laisserons à nos lecteurs le plaisir ou la stupeur de découvrir quelle est cette affaire sensationnelle.
Ah, mais quel coup de théâtre !
Oui, mais tout à fait vraisemblable en plus.
Oui.
Il apparaît que... Nicolas Le Floch lors d'une...
Attention, n'en dites pas trop.
Lors d'une rencontre avec Madame Louise, qui est au Carmel de Saint-Denis, va apprendre des informations sur ses origines. Alors pour les nous en restons là.
Pour les lecteurs, je signale tout de suite que ça se passe à la page 155. Voilà. C'est là où tout bascule. Enfin, ça va le mettre dans
une... Ce qui est bien, mon cher Bernard, avec vous, c'est qu'on est sûr que vous avez lu le livre.
et ça va le mettre dans une drôle de situation, surtout vu le contexte. Hein, on le rappelle, à 3 ans voilà. De 1780.
Il était déjà très... Oui, on ne peut rien dire. J'allais m'échapper sur une remarque qui...
Et puis alors, ce qui est toujours bien aussi avec vous, c'est que l'enquête... Alors bon, les lecteurs la découvriront. Il y a évidemment des meurtres, des disparitions. Ici, au départ, c'est celle d'un conservateur au cabinet des médailles, donc à la bibliothèque du roi. Et pour élucider ces affaires, il y a toujours, vous avez toujours recours comme ça à des stratagèmes. Et ici, c'est celui du sommeil, ce qu'à l'époque, on appelait le sommeil lucide.
Oui, le sommeil lucide est une invention du XVIIIe siècle, si marquée par ses recherches, et en particulier à partir de ce que Mesmer avait, comment dirais-je, entamé avec ses expériences de magnétisme. Et il s'est avéré qu'un disciple de Mesmer, par hasard, a découvert qu'on pouvait plonger des personnes dans des... sommeil lucide, ce que nous appellerions nous sommeil hypnotique, et donc leur faire dire des choses qu'ils n'étaient pas censés pouvoir dire. Donc j'utilise finalement cette possibilité pour tenter d'élucider une des énigmes du livre.
Alors, on va parler dans un instant de ce magnifique livre à la table de Nicolas Le Floch avec vous, Marion Godefroy. Mais j'imagine que... Est-ce que vous étiez une lectrice avant cette collaboration avec Jean-François Parot? Est-ce que vous étiez déjà une lectrice assidue des enquêtes de Nicolas Le Floch?
Alors, j'étais une lectrice très assidue des aventures de Nicolas Le Floch et écrire ce livre a été pour moi une divine récréation dans mon métier d'historienne. C'est toujours très émouvant quand on travaille sur un siècle, quand on connaît les détails intimes, de voir comment le romancier, comment l'univers de la fiction finalement s'imprègnent de tout cela et parviennent à nous faire presque sentir les odeurs, les puanteurs de Paris, les cris qu'on jetait dans les rues et même les parfums, le musc que les femmes portaient alors. Et ça a été un bonheur de lectrice et un plaisir par la suite d'historienne de faire ce livre.
Dès le départ, dans toutes les enquêtes de Nicolas Le Floch, la cuisine, la gastronomie, les plaisirs de bouche ont toujours été très présents. D'ailleurs, c'est encore le cas ici, hein, j'ai relevé deux recettes. Il y a la tourte aux huîtres ou le foie de veau en toilette. J'adore l'expression. Pourquoi, Jean-François Parot, cette omniprésence de la cuisine dans les enquêtes de Nicolas Le Floch?
Parce que moi, j'aime bien manger. Et j'aime bien faire la cuisine. Je pense que Marion également adore faire la cuisine. Donc je pense qu'il est difficile de faire revivre une période comme celle du XVIIIe siècle sans au fond plonger le lecteur dans la réalité du quotidien. Et puis je trouve que le XVIIIe siècle est un siècle particulier parce que c'est le siècle où la cuisine devient, je dirais, se généralise d'une manière... Il y a une sorte de démocratisation de la cuisine et même, au mi-temps du siècle, un débat insensé sur la nouvelle cuisine qui reprend mot pour mot le débat que nous avons eu dans les années 60 avec Gault et Millot et un certain nombre de nos spécialistes de cuisine.
Vous le soulignez d'ailleurs dès la préface que vous signez de ce livre à la table de Nicolas Le Floch. Et en effet, on peut dire, Marion Godefroy, qu'en cuisine également, le 18e a été le siècle des Lumières.
Alors, ce fut un siècle des Lumières et surtout, la cuisine a occupé une place très importante, y compris dans le domaine de l'édition. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ouvrage de cuisine par un cuisinier, c'est quelque chose qui est extrêmement bien vendu. Ce qui est intéressant entre ces livres de cuisine et l'œuvre de Jean-François Parot, c'est qu'au XVIIIe siècle, vous n'avez pas de grammage, premièrement, vous n'avez pas de température de cuisson, donc on a une description très croustillante finalement des menus.
Et il n'y a pas les temps non plus de cuisson.
Il
n'y
a pas les temps
crois,
de cuisson, ouais. Bien évidemment. Et donc on a une description du mets tel qu'il doit être humé, tel qu'il doit être mâché, tel qu'il doit être presque digéré. Et c'est ce qu'on retrouve finalement aussi pour une part dans l'œuvre de Jean-François Poirot, c'est-à-dire ce bonheur et ce plaisir quasiment charnel à goûter les choses et à les faire.
J'ajouterai à ce que vient de dire Marion que moi-même, dans ma carrière de diplomate, je faisais la cuisine. Ma table était, je peux le dire, assez réputée.
Et on sait que vous êtes issu d'ailleurs d'une lignée d'aubergistes, de cuisiniers.
Et je dois dire aussi qu'il m'est arrivé, parce que j'étais souvent dans des pays difficiles où il n'y avait plus de but à gaz, où il y avait de faire la cuisine sur ce qu'on appelle le potager, c'est-à-dire un trou dans un réchaud avec de la braise. Et les temps de cuisson ne sont pas toujours faciles. Il faut surveiller, ce qu'on est en train de cuisiner. Hein. Je me souviens avoir fait un repas officiel au Vietnam, alors qu'il y a une coupure totale de but à gaz sur mon potager. J'avais 40 personnes à ma table, un ministre français qui était de passage, et je me souviens avoir fait 40 petits pâtés champenois et 40 cuisses de canard en gelée, et j'ai cuisiné toute la nuit sur les potagers.
Alors quel en est le concept, Marion Godefroy ? C'est reprendre en effet des recettes que l'on retrouve dans les enquêtes de Nicolas Le Floch et les resituer dans le contexte de l'époque ?
C'est pas si simple, parce que je crois que si j'avais présenté un projet simplement entrée plat dessert avec les recettes à Jean-François Parot, il m'aurait regardé d'un air amusé en me disant « c'est très bien Marion, mais vous pouvez mieux faire ». C'est pas ce que j'ai voulu. J'ai voulu coller à l'œuvre. Et coller à l'œuvre, c'est-à-dire déjà faire un livre qui s'organise en services, et plus exactement en 4 services, qui reprennent ce que sont les services de Grimaud de la Reynière. Et avec, et en partant des textes de Jean-François Parot, les commenter, s'amuser un petit peu, expliquer ce qu'est le beurre, lorsqu'il utilise le beurre, expliquer avec quoi on va imbiber un baba, puisqu'on ne va pas forcément l'imbiber avec du rhum.
Oui, et c'est ce qu'on apprend. Hein, au départ, le baba n'est pas au rhum.
Le baba n'est pas au rhum au départ.
Au safran.
Il est au safran, il est au vin de Malaga, parfois au vin de Madère, mais il n'est surtout pas au rhum. Et proposer finalement, donc là il a fallu faire des essais, un certain nombre, qui ont ravi mon mari, mes enfants, des cousins que je ne connaissais pas d'ailleurs, et refaire les recettes pour que le lecteur puisse à nouveau et à son tour recevoir avec les agapes de Nicolas.
Vous avez tout testé, hein, toutes les recettes.
Ah oui, tout a été testé.
À la maison.
À la maison.
Ce que je voudrais ajouter, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que le livre est infiniment celui de Marion Godefroy, parce que moi, bien sûr, il y a les recettes qui apparaissent dans mes romans, il y a la préface, mais enfin, toute l'intelligence et la beauté du commentaire, eh bien, c'est à Marion que nous le devons.
La diététique existe déjà, notamment, vous l'expliquiez avec Marie-Antoinette, qui est très soucieuse ligne.
C'est quand on imagine que Marie-Antoinette, d'un seul coup, s'est mise à jouer à la bergère à Versailles. En fait, Marie-Antoinette a été élevée à Schönbrunn, avec un médecin qui l'a chaperonnée et qui lui faisait faire quotidiennement, ainsi qu'à ses frères et sœurs, des exercices et veiller aussi sur sa santé. Et elle mangeait l'exact contraire de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, c'est-à-dire qu'elle n'était pas dans des repas forcés, dans du gibier en permanence et des sauces, mais au contraire, développait le service du fruit, si l'on peut dire, et faisait extrêmement attention à une nourriture saine.
J'ai chez moi un manuel portatif de cuisine du XVIIIe siècle. Et ce manuel de cuisine, sur chaque produit qui est évoqué, il y a un petit chapitre sur les qualités diététiques. Alors on dit, voilà, c'est un peu échauffant, ça faudrait pas en manger de trop, les gens qu'on... c'est vraiment, on pourrait décoller ces recommandations et les mettre aujourd'hui dans un livre de cuisine. C'est quelque chose qui est très présent au fond.
Ah, juste un dernier mot à la fin, on trouve un petit lexique, et là à chaque fois je me pourlèche les babines, c'est le cas de le dire, avec les pourlicheries. Par exemple, c'est un mot qui aujourd'hui a disparu, on peut rappeler ce que c'était.
Et aussi le mot, enfin, je peux dire le mien, qui fricote. Quand on fricote sur le potager, quand on remue d'une certaine façon à la poêle, c'est quand même, on imagine là toutes les odeurs, le petit bruit délicieux du beurre, et c'est absolument magnifique.
Et donc, je le précise, les pourlicheries, ce sont les desserts.
Ah oui,
on a répondu à la question, c'est vrai.
Merci à tous les deux, bon appétit, bonne lecture.
Merci à vous.
Merci à vous, Bernard.